Bonjour, chers frères. Je suis heureux de vous voir tous ici aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose d'intéressant sur le campus ces derniers temps. Nous l'avons vu, vous en avez entendu parler dans les messages au cours des derniers mois et de l'année dernière, et c'est le sujet des animaux de compagnie. Nous avons tous, ceux d'entre nous qui sont ici au siège ont entendu plus d'histoires sur les animaux de compagnie que ces dernières années parce que je pense que beaucoup de gens en ont eu, et c'est amusant à voir, c'est agréable de pouvoir aller caresser ses chiens et ses chats et ce genre de choses. Je n'en possède pas moi-même à cause des bébés que nous avons à la maison, mais il y a un membre ici au siège en particulier qui essaie de me persuader d'acheter des huskies pour mes filles. Et il a jusqu'à présent échoué dans sa tâche, mais il insiste vraiment pour le faire. Je pense qu'il les veut plus pour lui que pour moi, ma famille. Il veut venir les voir lui-même. Quoi qu'il en soit, les animaux de compagnie sont un sujet important sur le campus, de nos jours, et nous avons eu beaucoup de chiens, beaucoup de chats, et nous avons, bien sûr, eu les chevaux. Si les chevaux vous intéressent, nous en avons trois. J'ai grandi avec quelques animaux de compagnie. Nous avions deux lapins quand j'étais enfant, mais je n'avais pas l'âge de m'attacher à eux ou de savoir grand-chose à leur sujet. Ils restaient dans leur cage. Je me souviens vaguement que mes parents ont dû mettre un mur de séparation entre eux deux parce qu'ils se battaient beaucoup, alors nous n'avons pas vraiment. Puis nous nous en sommes débarrassés. Je ne me souviens pas avoir eu beaucoup de. Nous n'avons jamais eu d'animaux de compagnie. Nous n'avons jamais eu de chien, de chat ou quoi que ce soit de ce genre. Lorsque je suis entré à l'université, je pense que j'avais un petit côté rebelle en moi. Je voulais avoir une sorte d'animal de compagnie dans la chambre du dortoir où on n'avait pas le droit d'en avoir. Alors j'ai pris un petit serpent. Mon colocataire et moi avons acheté des serpents, mais l'un d'entre eux n'a pas très bien résisté au froid de la neige, et l'autre a été donné à un ami. Le serpent que je possédais a été donné à un ami parce que je n'en voulais plus, et il a fini par le mordre. Je suis donc content que ces serpents aient été. Nous nous en sommes débarrassés. Ce n'étaient pas de très bons animaux de compagnie, mais c'était plus pour le plaisir de dire que nous avions quelque chose dans le dortoir que nous n'avions pas le droit d'avoir. C'était vraiment le but. Je n'ai pas eu beaucoup d'animaux de compagnie dans mon enfance, mais je connais des gens qui en ont eu. Je connais des gens qui possèdent des chevaux depuis de très nombreuses années. Ils font presque partie de la famille. Il en va de même pour les chiens, les chats, les lapins et d'autres animaux de compagnie. Ils sont presque. Vous devenez si proche de ces animaux que c'est comme s'ils faisaient partie de votre famille. Ils ont une personnalité. On sait ce qu'ils vont faire. Vous avez de la tendresse pour eux lorsqu'ils sont malades. Vous vous sentez proche d'eux et vous voulez prendre soin d'eux, les nourrir. Jouez avec eux et les appréciez autant que vous aimez les voir apprécier votre compagnie, autant que vous aimez leur propre compagnie. Dans son enfance, ma femme avait beaucoup de chats d'étable à la maison, qu'elle aimait beaucoup. Ils allaient et venaient. Elle n'a jamais vraiment eu d'animaux de compagnie qu'elle a achetés. Je suppose qu'elle avait des chiens. Elle avait quelques chiens. Mais ils n'ont jamais vraiment eu de chat qu'ils avaient acheté. Ils passaient juste par là, et ils apparaissaient tout d'un coup. Aujourd'hui encore, mes beaux-parents ont des chats à la maison, des chats d'extérieur, qu'ils adorent. Il y a une merveilleuse vidéo de ma belle-mère. Je ne veux pas en dire trop, mais ce chat, elle l'appelle. C'est une très belle histoire. Elle appelle le chat. Charlie, 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 et le chat marche tranquillement derrière elle. Nous avons tout filmé, le chat marche tranquillement derrière elle, et elle l'appelle Charlie, Charlie. C'est l'une des meilleures vidéos que j'ai jamais vues. C'est tellement mignon. Mais les gens aiment leurs animaux. Monsieur Abouoche a beaucoup parlé de ses animaux de compagnie lorsqu'il était enfant. Il y en avait un en particulier qui lui tenait particulièrement à cœur. C'était un chat japonais à queue courte, et je lui ai demandé pourquoi vous étiez si proche de lui. Il m'a répondu, un jour, il s'est fait renverser par une voiture et s'est cassé la hanche. Les vétérinaires lui ont donné trois options. Il n'était pas particulièrement. Il appréciait ce chat auparavant, mais une fois que le chat s'est cassé la hanche, il est devenu très proche de lui et a eu trois options différentes. La première était de l'euthanasier. Deuxièmement, il pouvait subir une opération chirurgicale massive qui coûterait des milliers de dollars, ce qu'il n'avait pas vraiment ou n'était pas en mesure de se permettre à l'époque. Troisièmement, il pouvait garder le chat pendant quelques mois dans un endroit très étroit et confiné. Il a peut-être déjà raconté cette histoire, mais, bien sûr, il a choisi la troisième option. Il a donc gardé ce chat dans une boîte très confinée, une cage dans sa chambre. Au cours des 2 mois qui ont suivi, le chat est devenu très affectueux, très attentionné, et Monsieur Abouoche s'est également rapproché de ce chat. Puis, une fois le chat sorti et guéri, il a changé du tout au tout. Il était très affectueux, très aimant, et Monsieur Abouoche est devenu très proche de ce chat grâce à cela. Vous voyez, ces animaux ont un esprit en eux. Ils ont une personnalité, et Dieu dit qu'ils ont un esprit en eux. Nous ne savons pas s'ils montent ou descendent, mais Dieu dit vraiment que nous devons considérer la vie de l'animal que nous possédons. Nous devons respecter la vie des animaux que nous possédons. Il veut que nous en prenions soin. Il veut que nous nous occupions d'eux, que nous les nourrissions et que nous les traitions presque pas comme un autre être humain, mais presque. Très proche. Je connais des gens qui passent probablement plus de temps avec leur chat qu'avec leurs propres enfants. Il est donc étonnant de voir comment Dieu a créé ce lien, si l'on peut dire, entre un animal de compagnie et son propriétaire. Les Proverbes 12, 10, et je vais vous les lire ici, disent ceci, l'homme juste a du respect pour la vie de ses bêtes. Il s'en préoccupe. Il en prend soin. Il leur prête de l'argent, il apprécie leur compagnie. Alors pourquoi est-ce que j'aborde le sujet des animaux de compagnie? Eh bien, il s'agit d'une introduction à un sujet dont vous avez probablement déjà entendu le terme, mais le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui des doctrines sur les animaux de compagnie. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce terme. Il est utilisé dans l'Église aujourd'hui et nous allons en discuter en détail. Qu'est-ce que les doctrines de l'animal de compagnie? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi sont-elles importantes? Pourquoi est-il important d'en parler aujourd'hui? On n'en entend pas forcément beaucoup parler, mais c'est un terme que nous utilisons dans l'Église. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, une doctrine de l'animal de compagnie, c'est un peu comme un animal de compagnie. C'est une doctrine que quelqu'un a en quelque sorte créée dans son propre esprit. Si je commence à étudier un sujet dans la Bible, que je vois quelque chose et que je me dis, c'est intéressant. C'est un sujet intéressant à aborder. Il peut s'agir d'un sujet spéculatif. Je commence à lire et je vois quelque chose dont nous n'avons peut-être jamais parlé auparavant ou dont nous n'avons jamais entendu parler, ou qui est un peu différent de ce que nous avons enseigné dans l'Église auparavant. Mais je trouve cela vraiment intéressant et je pense que je vais continuer à l'étudier un peu plus en profondeur. C'est l'origine de ce que l'on pourrait appeler une doctrine de prédilection, quelque chose que quelqu'un commence à trouver intéressant dans son propre esprit, mais qui n'a pas nécessairement été enseigné dans l'Église auparavant, et qui n'est pas non plus nécessairement conforme à la doctrine de l'Église elle-même. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la spéculation. Nous en avons tous entendu parler dans l'Église. Il y a une différence entre spéculer sur quelque chose et s'engager dans une doctrine favorite. On parle de spéculation lorsqu'on discute avec d'autres personnes ou lorsqu'on réfléchit seul, en méditant sur la parole de Dieu. La spéculation consiste à penser à quelque chose que l'on ne peut pas nécessairement prouver, mais qu'il est amusant de penser. Pensez au royaume. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons spéculer en ce qui concerne la venue du royaume de Dieu, ce à quoi il ressemblera, quels seront nos rôles, à quoi ressemblera la famille de Dieu, comment administrerons-nous ce gouvernement à travers toute l'humanité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons spéculer, comment cela fonctionnera, et ce genre de choses que nous ne pouvons pas nécessairement prouver, mais c'est amusant d'y penser. C'est amusant d'entamer des discussions, et c'est bien de le faire. Cela nous permet de garder l'esprit vif. Cela nous permet de garder l'esprit vif et de nous concentrer sur les choses d'en haut, par opposition aux choses de la terre. La spéculation est donc une très bonne chose. Là où elle franchit la ligne de la petite doctrine, c'est lorsque nos spéculations commencent à prendre racine et à dire, vous savez, je ne pense pas que ce soit juste une idée ou quelque chose comme cela. C'est quelque chose dont je suis convaincu qu'il va se produire, et cela s'oppose à la doctrine établie de l'Église. C'est là qu'intervient la doctrine de l'animal de compagnie. Les doctrines de l'animal sont une façon agréable de dire hérésie. Hérésie. Vous savez, je pense à une doctrine sur les animaux de compagnie, c'est pourquoi j'ai introduit le message en disant qu'il est merveilleux d'avoir des animaux de compagnie. Combien il est spécial d'avoir des animaux de compagnie? Pourquoi les gens passent-ils tant de temps avec des animaux de compagnie? Parce qu'ils les aiment, les chérissent, les nourrissent. Ils veulent développer un lien étroit avec cet animal. Il en va de même pour les doctrines sur les animaux de compagnie. Il s'agit d'une chose que vous avez décidé de nourrir. Je veux la nourrir. Je veux le chérir. Je veux l'élever à partir d'un chiot, d'un petit chiot. Cette petite idée que je peux avoir dans mon esprit à propos de quelque chose qui est contraire à ce que nous croyons ou enseignons déjà, mais qui commence par une spéculation et qui peut commencer par « j'aime bien ce petit chiot là-bas ». Ce chiot est merveilleux. Il est doux, je peux le caresser. Peut-être trouvez-vous quelques autres versets dans la Bible qui peuvent soutenir, au moins dans votre esprit, ce qu'est votre idée. Et vous voulez le nourrir tous les jours. Vous voulez l'emmener chez le vétérinaire. Vous voulez lui donner ses vaccins. Vous voulez vous assurer que vous dépensez, peut-être que vous n'êtes pas comme monsieur Abouché que vous décidez, je vais aller jusqu'au bout et je vais dépenser des milliers de dollars en chirurgie pour m'assurer que la hanche est bien remise en place. Vous voulez peut-être les promener par un froid glacial. Personne ne veut faire cela, mais vous le faites si c'est un chien ou, vous ne promenez pas les chats, mais si c'est un chien que vous aimez, vous le sortirez dans le froid de l'hiver et vous l'emmènerez faire ses besoins. Vous aurez envie de le câliner et il fera partie de la famille. C'est exactement ce qu'est une doctrine de l'animal de compagnie. Une doctrine pour animaux commence par être petite et elle grandit dans votre esprit. Elle prend de l'importance, elle grandit, et encore une fois, elle est différente de la spéculation. L'hérésie est un terme plus fort pour une petite doctrine. L'hérésie va au-delà de la spéculation et devient quelque chose que l'on considère comme une vérité dans son propre esprit, mais qui est contraire à la doctrine de l'Église. Curieusement, nous vivons dans l'ère laodicéenne. Nous le savons tous. Nous vivons à l'ère laodicéenne. L'environnement dans lequel nous sommes assis et dans lequel nous vivons favorise ce genre de pensée. 400 groupes dissidents ont été créés en partie à cause de doctrines de prédilection. Pensez-y. Des idées auxquelles ils voulaient s'accrocher, qu'il s'agisse de petites choses comme le maquillage ou... Je suis allé récemment sur le site d'un autre grand groupe de sionistes pour voir ce qu'ils enseignent de nos jours. Et j'ai vu, dès le début de leur site, les quelques doctrines qu'ils énumèrent, le sabbat, ils disent, oh, le sabbat et les jours saints, c'est très bien. Puis ils ont abordé l'évangile. Lorsque j'ai cliqué sur l'évangile, la première page de ce site web indique que, bien sûr, Jésus-Christ lui-même, ses souffrances, sa mort, tout cela, sa résurrection, ce qu'il a traversé et tout cela, que cela symbolise, fait partie de l'évangile. Mais c'est plus que cela. Il s'agit aussi du royaume de Dieu. Et je me suis dit que c'était étonnant. Ils disent simplement que Jésus-Christ fait partie de l'évangile et qu'il est l'évangile. Il va plus loin et inclut le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'inclut pas Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Il s'agit du royaume de Dieu à venir et du gouvernement qui sera établi sur la terre. J'ai été choqué lorsque j'ai vu cela. C'est une petite doctrine, si l'on peut dire, qui s'est glissée dans l'un des plus grands sujets de la Bible, à savoir ce qu'est l'évangile. Peu importe que si nous enseignons un faux évangile, si vous enseignez un faux évangile, vous vous infligez une double malédiction. Il est dangereux de se mêler de l'évangile. C'est juste un petit élément de l'évangile. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une petite doctrine. C'est juste un petit chiot que je peux caresser ici. Il n'y a pas de problème. Laissez-le tranquille. Il ira bien. Il n'y a pas de problème. Les doctrines d'animaux domestiques abondent dans l'ère laodicéenne. Elles abondent. Elles sont partout. Chaque groupe qui s'est détaché de l'Église mondiale de Dieu s'est tenu à certains éléments de ce qu'enseignait la Didache lorsqu'il a pris le contrôle de l'Église mondiale de Dieu. C'est pourquoi c'est l'ère laodicéenne. Ils ne s'en tiennent pas à ce que M. Armstrong a enseigné. Ils s'en tiennent à une grande partie de ce que M. Armstrong a enseigné, avec quelques bribes de ce que les apostats ont enseigné, qui sont finalement retournés complètement au protestantisme. À travers le sabbat, la loi et le Dieu de la Bible, la Trinité, ils sont revenus à la Trinité. Ils ont tout rejeté. C'est donc là que les doctrines d'animaux peuvent devenir très trompeuses. Le terme lui-même peut sembler un peu trompeur. C'est comme si l'on disait, oh, ce n'est qu'une petite doctrine. Ce n'est qu'une petite doctrine. Ce n'est rien d'important. Non, mes frères, c'est une hérésie. C'est une fausse pensée. C'est faux. C'est comme prendre un animal de compagnie et le regarder et voir que vous avez cet animal, vous pensez qu'il est merveilleux. Vous pensez, oh, c'est juste un si grand animal de compagnie, rien de nuisible à son sujet, aucun problème avec lui. Mais c'est comme si vous preniez un animal de compagnie, que vous le regardiez, que vous le nourrissiez, que vous le construisiez, et que vous découvriez qu'il a la rage. Une fois que vous avez réalisé qu'il avait la rage, vous décidez, oh, je vais quand même le garder. Même si vous savez qu'il pourrait vous mordre et vous tuer, c'est comme si vous aviez un chien enragé. Les doctrines d'animaux sont mortelles. Les hérésies sont mortelles. Ce n'est pas comme acheter un ouistiti, comme celui avec lequel M. Abouch est récemment entré en contact à la friperie. Ce n'est pas comme un petit ouistiti, oh, il est si mignon et si doux. C'est comme si vous décidiez, au lieu d'acheter un ouistiti ou un chiot ou un chaton, d'acheter une nuée de moustiques ou quelque chose comme cela. C'est ce que vous avez décidé. Voilà mes nouveaux animaux de compagnie. Je vais réserver une pièce entière de ma maison à cet essaim de moustiques. Je vais m'assurer qu'il y a de l'eau stagnante ici. J'ai deux magnifiques moustiques. Vous pouvez faire venir des gens pour leur montrer vos moustiques. Vous passez du temps avec eux, vous vous assurez que vous les nourrissez. Frères et sœurs, personne ne prendrait le temps d'acheter un essaim de moustiques et de s'en occuper, de s'assurer qu'ils ont beaucoup d'eau stagnante, de s'assurer qu'il y a des œufs qui éclosent ici dans le coin et que d'autres moustiques peuvent en sortir. Personne ne pense ainsi. Mais nous devons voir des doctrines d'animaux de compagnie comme cela. Comme si nous allions acheter, non pas un chiot, mais une nuée de moustiques. Les moustiques sont les premiers tueurs de la planète. Ils pompent le sang et le transmettent à d'autres. Ce sont les pires, les plus terribles, les plus dégoûtantes des créatures. J'imagine que c'est Dieu qui les a créés, mais il ne serait pas exagéré de penser que c'est peut-être Satan qui les a créés, je n'en suis pas sûr, mais je plaisante, bien sûr. Mais nous ne savons pas, nous ne savons même pas quels sont les avantages des moustiques. Vous pouvez faire des recherches. Il n'y a pas de bénéfice connu pour les moustiques. C'est ainsi que nous devons considérer les doctrines d'animaux. Nous devons les considérer comme une couvée de moustiques, quelque chose qui n'a aucune valeur rédemptrice pour vous. Au moins, si nous pensons à une doctrine sur les animaux de compagnie, et que nous pensons à un chiot ou autre, il y a au moins, même s'il est devenu enragé, une certaine forme d'affection que vous pouvez avoir pour lui. Oh, le pauvre, il est enragé, peu importe. Mais un jour ou l'autre, il faudra l'abattre. Mais il n'y a pas de valeur rédemptrice à avoir des moustiques. C'est ce qu'est l'hérésie, c'est ce qu'est la doctrine de l'animal de compagnie. Une fausse pensée qui peut sembler inoffensive à la surface, mais qui est mortelle, mortelle au fond. Nous nous référons au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Nous allons d'abord passer un peu de temps sur cette idée, le sujet de ce qu'est exactement une doctrine animale. Nous devons en comprendre la gravité. Je sais que vous savez ce que c'est maintenant, mais je veux que vous en compreniez la gravité. Si je vous laisse sans comprendre la gravité d'une petite doctrine, d'une hérésie, en entrant dans ce domaine, je n'ai pas fait mon travail. Je veux que vous compreniez ce que c'est exactement, et à quel point c'est sérieux, avant que nous n'abordions la façon de les prévenir. Jetez un coup d'œil au premier chapitre des Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, et verset 17, nous allons le reprendre, 1 Corinthiens 11, 17. Or, ce que je vous déclare, c'est que je ne vous loue pas de ce que vous vous réunissez, non pour le meilleur, mais pour le pire. Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez dans l'Église, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Il y a des divisions parmi les frères de Corinthe. Car il faut qu'il y ait aussi des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés au milieu de vous. Dieu a inspiré Paul à dire aux frères qu'il avait entendu dire qu'il y avait des divisions, et que ces divisions étaient liées à l'hérésie. Cette hérésie s'était infiltrée dans la congrégation de Corinthe. Et Paul a dit quelque chose de fascinant à ce sujet. Il a dit que l'hérésie doit venir, mais qu'il doit aussi y avoir des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés. Ce qu'il disait, c'est que les hérésies sont inévitables dans l'Église de Dieu. Il y en aura. La plupart du temps, sauf pendant l'apostasie, elles ne viennent pas souvent de la chair. Elles ne viennent pas souvent du sommet du gouvernement, vous savez, elles ne viennent pas souvent du sommet du gouvernement vers le bas, comme elles l'ont fait sous les didaches dans la World Wide Church of God. C'est horrible quand cela arrive. Lorsque l'hérésie vient du sommet du gouvernement et se répand dans le reste de l'Église, elle la détruit complètement et crée l'ère laodicéenne. Mais la plupart du temps, les doctrines et les hérésies sont introduites par des individus. Cela peut être par l'un des frères. Cela peut se faire par l'intermédiaire du ministre de la congrégation, ce qui est terrible, ce qui n'est pas bon. Ce n'est absolument pas bon. Mais ce que nous apprenons ici, c'est que les hérésies doivent venir. Vous et moi, à un moment ou à un autre de la voie de Dieu, ferons l'expérience ou rencontrerons, frôlerons une hérésie qui a traversé la congrégation ou qui a traversé un individu dans la congrégation. Nous le ferons, parce que c'est ce que dit Paul. La question est donc de savoir ce que nous faisons à ce sujet. L'hérésie peut venir de nous. Elle peut passer par nous en tant qu'individu. C'est là qu'est le danger, mes frères. Nous devons être attentifs à l'hérésie, qu'elle vienne de notre propre esprit ou qu'elle vienne de notre entourage dans l'Église. Car c'est une façon pour Dieu de nous tester, de nous éprouver, de voir si nous tenons fermement à la vérité, si nous avons prouvé que nous sommes dans l'Église de Dieu, si nous avons prouvé les doctrines de la Bible et si nous nous y tiendrons. Les hérésies doivent passer par l'Église. C'est inévitable. Passez au chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Galates 5, verset 17. Reprenez-le au 19e, en fait. Les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont évidentes. Les œuvres de la chair, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, l'émulation, la colère, les querelles, les séditions, les hérésies, les jalousies, les meurtres, l'ivrognerie, les réjouissances, et autres choses semblables. Les hérésies sont une œuvre de la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mes frères, que nous sommes naturellement enclins à vouloir tomber dans l'hérésie. L'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Il déteste Dieu. Par conséquent, ce qu'il aime, si vous le retournez, ce que l'esprit charnel aime, ce sont les choses qui sont contre Dieu, y compris toute forme d'hérésie. L'esprit charnel aime l'hérésie. L'esprit naturel l'aime. Cela fait partie des œuvres de la chair. Nous aimons les choses différentes. Nous aimons les choses qui disent « Oh, oh là là, j'ai trouvé cette chose spéciale qui est différente de ce que l'Église enseigne. » C'est ce que la nature humaine aime. Il ne veut pas nécessairement s'intégrer au reste de la population, mais il veut se démarquer. Il veut dire « J'ai trouvé quelque chose de spécial. J'ai trouvé quelque chose d'unique. J'ai trouvé quelque chose de différent de ce que l'Église enseigne. » Et cela est naturel. Et bien que les doctrines d'animaux ou l'hérésie puissent sembler, encore une fois, inoffensives à la surface, revenons à l'idée d'avoir un petit chiot, cela peut sembler inoffensif à la surface, mais c'est extrêmement, les doctrines d'animaux et l'hérésie sont extrêmement érosives. Passons au chapitre 2 de la deuxième édition de Timothée. Voyons un exemple d'hérésie, de doctrines secondaires qui se sont infiltrées dans l'Église au 1er siècle. 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15. Verset 14. Souvenez-vous de ces choses. Paul s'adresse ici à Timothée, qui était évangéliste. Rappelle-leur ces choses, en les chargeant devant le Seigneur de ne pas s'attacher à des paroles sans profit, mais pour la perdition de ceux qui les écoutent. Nous allons maintenant aller verset par verset. Ce passage est rempli de choses fascinantes qui sont absolument liées aux petites doctrines et à l'hérésie qui s'insinue. Rappelle-leur ces choses, en les exhortant devant le Seigneur, afin qu'ils ne s'agitent pas en paroles sans profit. Les doctrines d'animaux deviennent souvent, n'est-ce pas parce que les gens s'inquiètent de s'efforcer, ont des disputes ou des désaccords sur de petits mots, de petits riens dans la Bible, des disputes sur des tapis, en fait, des choses qui n'ont pas d'importance, mais néanmoins, elles se sont produites. Les gens se disputaient au sujet des mots, sans profit, mais pour subvertir les auditeurs. Voici le conseil de Paul, efforce-toi de te montrer digne de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir de sa réputation, en divisant avec justesse la parole de la vérité. Comprenez la parole de Dieu et utilisez-la correctement, mais évitez les discours profanes et vains. Les bavardages sont des discussions stériles, des choses qui ne portent aucun fruit. Des bavardages sur l'idée que vous vous faites d'ici, sur ce que ce mot grec ou hébreu peut signifier et comment il peut changer la façon dont nous voyons certaines choses. Oubliez tout cela. Oubliez-les. C'est inutile et vain, vide, infructueux, mais fuyez-le. Alors fuyez-les. Débarrassez-vous-en. Et leur parole mangera comme un chancre. Nous avons tous eu des chancres dans la bouche, ou des aphtes, où le mot chancre signifie en fait, croire qu'il signifie en fait le cancer. Il se nourrit comme un cancer. Lorsqu'une doctrine animale se glisse dans l'église, tout comme le cancer, elle commencera à se répandre. Elle commencera à manger l'hôte et à se répandre. Ce n'est pas bon. Nous sommes le corps du Christ et si nous permettons à l'hérésie du cancer, vous savez, l'hérésie cancéreuse de s'infiltrer dans le corps du Christ, elle se répandra dans le corps. C'est ainsi que cela fonctionne. Et voici le point, verset 17, la dernière moitié, dont Hyménée et Philette, qui se sont égarés au sujet de la vérité, en disant que la résurrection est déjà passée, et qui ont renversé la foi de quelques-uns. Nous avons dans la Bible un exemple précis, avec Hyménée et Philette, d'une doctrine animale qui s'est effectivement infiltrée dans l'Église au premier siècle. Et nous savons ce qu'était cette doctrine. Leur doctrine favorite était de dire que la résurrection est terminée. Christ était déjà ressuscité. Nous n'avons pas plus de détails, alors peut-être qu'ils pensaient, « Oh, eh bien, il y a eu des saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités à la fin des 3 jours et des 3 nuits où Christ était dans la tombe. La résurrection est terminée. » C'était leur doctrine favorite. Ils ne croyaient pas qu'il y avait une résurrection à venir dans le futur. Leur hérésie qui s'est répandue comme un chancre, ou un cancer, a fini par renverser la foi de certains, comme il est dit à la fin du verset 18. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux de s'engager dans cette voie. C'est très dangereux. C'est dangereux pour vous personnellement, parce que cela peut détruire votre vie éternelle, parce que vous pouvez commencer à vous accrocher à de fausses pensées qui finiront par vous faire sortir de l'Église. Mais là où c'est encore plus dangereux, c'est qu'inévitablement, mes frères, et j'y reviendrai dans une minute, la misère aime sa compagnie. Si vous êtes une île seule avec votre idée, cette merveilleuse nouvelle idée que vous avez, cette nouvelle idée hérétique que vous avez, vous voulez la partager avec d'autres personnes et devenir, obtenir leur, vous savez, s'engager avec eux. Parce qu'en fin de compte, ce que nous voyons ici, c'est que l'hérésie crée la désunion. Elle crée des divisions dans l'Église. Elle divise les gens. Elle crée des querelles et des disputes. Elle transforme les gens en, elle transforme l'Église en factions, ce qui est exactement ce que nous voyons aujourd'hui dans l'ère laodicéenne. Ce n'est pas différent. C'est pourquoi nous le voyons. Nous voyons simplement une prescription biblique de ce qui a conduit à l'ère laodicéenne telle que nous la voyons aujourd'hui. Cela nous divise. Et nous ne devons pas laisser ce cancer se développer. 1 Timothée 1 et le verset 18, Revenez quelques pages en arrière. Le 1er Timothée, au verset 18, prouve que cette personne, Hyménée, devait être exclue de l'Église à cause de ces choses. Je te confie cette charge, Timothée, d'après les prophéties qui t'ont précédé, afin que tu combattes avec ardeur, en gardant la foi et la bonne conscience, que certains ont abandonné en ce qui concerne la foi, et qui ont fait naufrage. C'est ce qui se passe quand on tombe dans l'hérésie. On se débarrasse de sa conscience et on fait naufrage. Dont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, je les ai exclus de l'Église pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul espérait qu'il pourrait en revenir, ce qui est également une autre chose merveilleuse à considérer. Ce n'est pas comme si quelqu'un tombait dans l'hérésie et était condamné à jamais. Paul les a exclus de l'Église pour que la douleur d'être séparé du corps du Christ fasse effet, et dans l'espoir qu'ils se repentiraient peut-être de leur hérésie, de leur doctrine préférée, et qu'ils reviendraient. Mais c'est à cela que mènent les doctrines de prédilection, c'est-à-dire à la mise à l'écart de l'Église. Voilà le vrai danger de tomber dans l'hérésie. Passez au chapitre 6 des Proverbes. Le véritable danger de tomber dans l'hérésie, et je viens de l'évoquer brièvement, est qu'elle s'oppose diamétralement à l'unité. Lorsque nous tombons dans l'hérésie, nous tombons dans une manière de nous séparer. S'il s'agit du reste de la congrégation, nous nous séparons de la congrégation. Nous nous séparons du corps du Christ dans ce domaine, dans cette idée. Le fait est que, si l'on y réfléchit bien, le malheur aime la compagnie. Cette personne ici qui est entrée dans cette hérésie n'aime pas être seule ici. Il aimait l'unité qu'il avait auparavant lorsqu'il était avec le reste de la congrégation, mais il aime aussi beaucoup sa nouvelle idée. Que fait-il? Que fait cette personne ici? Décide-t-elle? Eh bien, je vais peut-être m'en tenir à mon idée, mais je vais en quelque sorte venir ici et parler avec l'un de ses frères ici, voir comment jeter la ligne, lancer la ligne, et voir s'il l'accepte. Oh, c'est une idée intéressante. J'aime ce que vous avez à dire. Vous savez quoi? L'Église n'enseigne pas cela, mais c'est pourtant le cas. Je le vois dans la Bible. Sans tenir compte de tous les versets de la Bible, d'ailleurs, il n'en regarde que deux ou trois, où il s'efforce de trouver des mots, ou quoi que ce soit d'autre. Ainsi, cette personne devient deux. Oh, j'ai des gens qui sont d'accord avec moi sur ce point. Et puis deux deviennent trois et quatre, et finalement vous avez cette division dans l'Église où vous avez un groupe ici qui croit une chose, et un groupe ici qui croit le contraire. Frères et sœurs, c'est là le danger. C'est là qu'intervient la division, et il faut y mettre un terme. C'est pourquoi elle est cancéreuse, elle se développe. Proverbe, chapitre 6 et verset 16. Jetez-y un coup d'œil. Quelle fascinante série de versets nous allons parcourir ici. Voici ce que dit le chapitre 6 et le verset 16 des Proverbes. Voici, mes frères, des versets à mémoriser dans la Bible. Je vous encourage, je ne l'ai jamais utilisé comme verset à mémoriser auparavant, mais après y avoir réfléchi et l'avoir examiné, ces quelques versets devraient ou pourraient devenir de puissants versets à mémoriser en raison de ce qu'ils disent. Regardez ceci. Le Seigneur déteste ces six choses. Si Dieu dit qu'il déteste quelque chose, et qu'il le déteste vraiment, nous devrions, nos oreilles devraient se dresser. Qu'est-ce que Dieu déteste? Oui, sept sont une abomination pour lui. D'accord. Regardons vraiment et voyons ce que nous allons voir. Dieu déteste l'orgueil. Nous n'avons pas encore abordé ce sujet, mais l'une des choses qui crée un environnement propice à l'émergence de doctrines animales, c'est l'orgueil, le fait d'être fier, de penser que ces idées ont plus de valeur qu'elles n'en ont en réalité, d'accorder plus de valeur à ces idées et à ces pensées qu'elles ne devraient en avoir. L'orgueil est un excellent moyen de tomber dans les doctrines de prédilection. C'est pourquoi Dieu déteste l'orgueil. Dieu pense absolument que c'est une abomination d'avoir un regard orgueilleux. Mais un regard orgueilleux peut conduire à des doctrines de prédilection. Une langue menteuse. Qu'est-ce qu'une petite doctrine? C'est une hérésie. C'est une erreur. C'est une erreur. Une langue menteuse. Des mains qui versent le sang innocent. Lorsque nous avons des doctrines qui nous sont chères, nous ne voulons pas seulement les avoir nous-mêmes, mais nous voulons entraîner d'autres personnes avec nous et les tuer spirituellement aussi. La misère aime la compagnie. Chacun de ces points est lié aux doctrines de l'animal de compagnie. Et Dieu déteste cela. Verset 18. Un cœur qui se livre à de méchantes imaginations. Vous créez littéralement des choses mauvaises. C'est ce qu'est la doctrine de l'animal de compagnie. Vous créez et concevez avec intention des choses qui sont mauvaises dans votre imagination. C'est ce qu'est une doctrine animale, c'est littéralement une doctrine animale. Des pieds qui sont rapides et qui courent à la malice, encore une fois, allant et allant rapidement et essayant de trouver ses idées et ensuite de les partager avec d'autres personnes. Un faux témoin qui dit des mensonges. Vous savez au fond de votre cœur que c'est peut-être mal, mais vous vous y accrochez, et vous vous y tenez, et vous vous mentez à vous-même. Et celui qui sème la discorde entre les frères. Toutes ces choses se rapportent et sont liées aux doctrines d'animaux. Et Dieu les déteste toutes. C'est une chose si les choses que nous choisissons de faire dans la vie finissent par nous blesser ou nous tuer. Les gens peuvent choisir de faire du parachutisme ou d'utiliser ces combinaisons à ailes où ils volent de justesse, on les voit voler avec des combinaisons à ailes entre des montagnes, dans de petites vallées entre des montagnes, manquant des rochers massifs, volant. Je ne sais pas à quelle vitesse ils volent, probablement à 60 ou 160 km. Qui sait à quelle vitesse ils vont? Ils vont très, très, très vite à travers ces montagnes, et ils manquent de peu de heurts et des rochers et toutes ces choses. À un moment donné, cette personne fera probablement une erreur de calcul ou rencontrera le vent dans la mauvaise direction, et elle sait qu'elle prend sa vie entre ses mains. Elle sait qu'elle peut potentiellement en mourir. Mais c'est une chose de choisir certaines choses, certains chemins dans la vie, lorsque vous savez que vous pourriez en mourir personnellement, mais c'est une toute autre chose lorsque les choix que vous faites peuvent potentiellement affecter d'autres personnes, lorsque vous n'êtes pas le seul dans la combinaison à elle maintenant. Vous avez 5 ou 10 autres personnes que vous avez entraînées derrière vous et que vous emmenez également à travers cette montagne. Et si vous mourrez, ils mourront aussi. Lorsque nous tombons dans le piège des doctrines, nous ne nous faisons pas seulement du mal à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Nous leur faisons du tort sur le plan spirituel et potentiellement pour l'éternité. Ce qui rend RCG et l'Église de Dieu restaurée si spéciale et nous distingue des scissionnistes, c'est que nous parlons tous de la même voix. Vous pouvez aller à Abu Dhabi, ou vous pouvez aller à Perth, ou vous pouvez aller n'importe où en Inde, n'importe où en Afrique, n'importe où dans le monde, et entendre les frères de Dieu, les doux frères, et les ministres parler tous de la même chose. Bien sûr, des hérésies peuvent apparaître. C'est là tout le problème. Mais nous sommes différents de beaucoup d'autres organisations qui le permettent et l'encouragent même. Certains de ces groupes dissidents vous encouragent à rédiger des documents pour déterminer s'ils sont en désaccord sur le plan doctrinal. Ils soumettent ce qu'on appelle des livres blancs au siège pour qu'ils puissent changer sa doctrine. C'est incroyable. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas ainsi que Dieu a fonctionné à travers son gouvernement. Nous parlons et marchons tous dans l'unité au sein de l'Église de Dieu. Mais les doctrines sur les animaux créent une séparation entre nous et le reste de l'Église. Inévitablement, vous voudrez les partager avec d'autres. Avant d'aborder les environnements dans lesquels nous pouvons cultiver ou faire naître ces doctrines de prédilection, comment les repérer? Comment repérer une telle doctrine? Comment en repérer une en nous-mêmes ou chez les frères qui nous entourent? Parce que nous savons qu'elles vont se répandre dans l'Église. Paul l'a dit. Récemment, quelqu'un a quitté l'Église avec une doctrine qui lui tenait à cœur. Il s'agissait d'une doctrine très importante, susceptible de nuire à d'autres frères. Heureusement, l'un des frères s'est exprimé. On aurait pu souhaiter qu'un plus grand nombre de frères s'expriment. Pourquoi un seul des frères, deux frères techniquement, le mari et la femme, pourquoi seulement deux d'entre eux se sont-ils exprimés et pas toute la congrégation lorsqu'elle a entendu ce qui a été dit? Nous devons tous être vigilants et veillés à ce genre de choses. Et voici une phrase clé que cet homme a prononcée juste au moment où il s'apprêtait à déverser sa doctrine sur le reste de la congrégation. Il a dit « Je sais que ce que je vais dire va me causer des ennuis. » Puis il a vomi. « Je sais que ce que je vais dire va me causer des ennuis. » C'est un signe certain que ce que vous allez entendre sera de l'hérésie. Vous savez pourquoi nous leur causons des ennuis? Parce que c'est contraire à ce que nous enseignons, à ce que la Bible enseigne. Par exemple, lorsque nous parlons de doctrine, mes frères, nous ne disons pas simplement ce que l'Église enseigne. Non, l'Église enseigne ce que la Bible enseigne, ce que Dieu enseigne, ce qui a été établi depuis des décennies, depuis M. Armstrong jusqu'à aujourd'hui, sous la direction de M. Pack. Les vérités de la Bible sont ce qu'elles sont. Lorsque nous parlons d'hérésie, nous ne parlons pas seulement de choses qui sont contraires à ce que l'Église enseigne. Ce sont des hérésies. Elles sont contraires à ce que la Bible enseigne. Nous ne pouvons pas confondre ces deux choses. Ainsi, lorsque cet homme a dit « Je sais que cela va me causer des ennuis, mais bla, 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 c'est un signe certain que ce que vous allez entendre est de l'hérésie. » Quels sont les autres signes d'hérésie? Comment reconnaître l'hérésie si vous l'entendez? Matthieu 23. Ce sujet me passionne. Il est si important. Il est si dangereux parce qu'il peut tout simplement anéantir les gens comme cela. Il peut faire disparaître les gens instantanément. Matthieu 23 et verset 23. Voici une autre façon de repérer l'hérésie. Il est dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anis et du cumin, et que vous avez omis les choses les plus importantes de la loi, le jugement, la miséricorde, la foi. Vous auriez dû faire ces choses et ne pas laisser l'autre sans les faire. » Bien sûr, les pharisiens s'intéressaient à la dîme, à ses spécificités et à sa rigueur. Il dit, Paul dit, vous devriez payer la dîme, mais vous ne vous concentrez pas sur les bonnes choses. Vous devez vous concentrer sur la situation dans son ensemble, sur les questions les plus importantes. Si nous voyons des gens qui sont constamment, sans fin, incapables de parler de quoi que ce soit sauf de ces petites choses, minuscules et pointilleuses, ou peut-être qu'ils remettent en question ce qui est enseigné parce qu'ils ont vu un petit micro-verset ici, un micro-verset là, et qu'ils ne sont tout simplement pas concentrés sur la vue d'ensemble, c'est une excellente façon de commencer à voir que l'hérésie peut s'introduire. Si nous le voyons en nous-mêmes, si nous n'étudions que les micro-éléments de la doctrine, quelle qu'elle soit, et que nous ne pensons pas suffisamment à la situation dans son ensemble, que nous ne retournons pas étudier la foi, que nous ne retournons pas étudier toutes sortes de questions relatives à la loi, que nous ne retournons pas étudier les grandes choses de la Bible, et que nous nous concentrons uniquement sur les petites choses, c'est dangereux. Et c'est une façon de repérer comment les doctrines d'animaux peuvent s'introduire. Tite chapitre 3, Tite chapitre 3, verset 9, mais évitez les questions insensées, les généalogies, les disputes et les débats sur la loi, car ils sont inutiles et vains. L'hérésie vient des disputes sur la loi, des disputes sur des choses difficiles, définies par Paul à Tite. Les hérésies proviennent de ces choses. C'est ainsi que l'on sait que si nous tombons nous-mêmes dans l'hérésie ou si nous repérons des hérésies autour de nous, c'est parce que nous repérons des gens qui ne se concentrent que sur les petites choses de la Bible, les choses sans importance qu'ils transforment en grand-choses, des choses qui sont peut-être minuscules, comme vous avez entendu parler de la montagne pour une taupinière, ils transforment une taupinière en une montagne, ou une fourmilière en une montagne. Et voici l'autre chose, voici la dernière façon de repérer les fausses doctrines. Allez au chapitre 17 des Actes, Actes 17, verset 16. Il s'agit de Paul lorsqu'il était en Grèce, Athènes. Voici ce qu'il a vu. Comme Paul les attendait à Athènes, son esprit fut excité par la vue d'une ville entièrement livrée à l'idolâtrie. C'est pourquoi il discutait dans la synagogue avec les Juifs et avec les dévots, sur le marché, chaque jour, avec ceux qui le rencontraient. Des philosophes épicuriens et stoïciens l'ayant rencontré, les uns disaient, « Que dira ce bavard ?» D'autres disaient, « Il semble annoncer des dieux étrangers. » Ils étaient intrigués par ce que disait Paul, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent et le conduisirent à l'aréopage, en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que signifient ces choses. » Paul apportait la vérité de la Bible, de Dieu, du Dieu créateur et du Christ. Il apportait la vérité de ces choses à des gens qui ne l'avaient jamais entendu auparavant. Pour eux, c'était une doctrine nouvelle et étrange. Mais vous et moi connaissons la vérité de la Bible. Nous connaissons les doctrines de la Bible. Mais néanmoins, un danger pour nous tous, parce que les hérésies font partie de la nature humaine, elles font partie de la voie de l'homme, Paul a mis en garde contre ces nouvelles doctrines, ces nouvelles choses étranges. Parce que nous aimons que les choses soient nouvelles. Nous n'aimons pas, naturellement parlant, nous n'aimons pas faire la même chose encore et encore et encore. Mais à un moment donné, lorsque nous sommes dans l'Église de Dieu depuis assez longtemps, nous finissons par nous rendre compte que les doctrines sont ce qu'elles sont. Les vérités de la Bible sont ce qu'elles sont. Elles ne changeront pas. Il n'y a rien de nouveau à observer les jours saints, ni à observer le sabbat. Ce qui peut être nouveau et passionnant, c'est la façon dont nous les expliquons, dont nous les considérons. Il y a peut-être certaines façons de voir la Bible que nous n'avons jamais vues auparavant et qui soutiennent des doctrines auxquelles nous croyons déjà. C'est merveilleux. Mais nous ne pouvons pas introduire de nouvelles doctrines pour nous exciter et nous intriguer dans ce genre de choses. La nouveauté n'est donc pas mauvaise si elle vient de l'apôtre de Dieu. Je voulais dire cela parce que la vérité vient à l'Église par l'intermédiaire de l'apôtre de Dieu. La vérité n'aurait pas pu être établie par M. Armstrong, ni par M. Pack, si nous n'avions jamais regardé la Bible avec des yeux neufs à certains égards. Mais ce n'est la responsabilité de personne d'autre que l'apôtre de Dieu. Je dis cela parce qu'il est évident que la vérité doit être rétablie. L'air de Sardes est presque tout perdu en ce qui concerne les vérités de la Bible. Monsieur Armstrong a dû se séparer de Sardes et enseigner des choses différentes de Sardes parce qu'il était un apôtre et avait la capacité de restaurer les doctrines à l'Église. Tout comme M. Pack fait la même chose aujourd'hui, restaurant les vérités au peuple de Dieu qui avait été perdu ou peut-être même jamais connu auparavant. C'est ainsi que l'on repère les fausses doctrines. Maintenant que nous savons cela, imaginons que nous avons ceci, poussons un peu plus loin la parabole ou l'exemple du moustique. Il y a des façons de faire et des environnements que vous pouvez avoir dans votre vie qui encouragent la croissance et la reproduction des moustiques dans votre vie, c'est-à-dire des doctrines de prédilection, où il y a des façons et des choses que vous pouvez faire dans votre vie pour décourager les moustiques de croître. C'est le reste du message, nous allons juste couvrir les choses à surveiller dans votre vie personnelle, les environnements dans votre vie personnelle qui peuvent encourager les doctrines animales à venir, qui peuvent encourager les hérésies à venir, et ensuite nous allons suivre cela avec les moyens de décourager les hérésies et de les couper et les arrêter, les éteindre. Comment se débarrasser d'elles? Le premier élément de l'environnement qui favorise l'hérésie est donc l'isolement. Proverbe, chapitre 18. Proverbe 18. L'isolement est un sujet difficile parce que dans l'Église de Dieu aujourd'hui, beaucoup de frères sont isolés, non pas par désir, non pas parce que nous voulons être isolés, non pas parce que nous choisissons d'être isolés, mais parce que nous sommes tellement dispersés et que nous sommes un petit troupeau. C'est ce que Dieu avait prophétisé à la fin de l'âge, que nous serions un petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Nous ne sommes pas destinés à devenir une église massive où chacun a une assemblée de 5, 10, 30 ou 100 personnes. Ce n'est pas ainsi que les choses se passeront à la fin de l'ère. Par nature, par définition, nous serons donc quelque peu isolés. Heureusement, nous vivons au XXIe siècle, et nous pouvons en être très reconnaissants parce qu'aux époques passées, si vous connaissiez la vérité et que vous étiez seul, vous pourriez ne serait-ce qu'imaginer qu'il y a 50 ou 100 ans, vous n'aviez que le téléphone, mais même il y a 100 ans, rien du tout. Vous n'aviez pas la possibilité de communiquer régulièrement avec des gens par-delà les mers. Sans parler de la possibilité de voir leur visage en un instant. Nous pouvons être très reconnaissants pour la technologie à l'époque où nous vivons, mais néanmoins, si nous nous enfonçons trop confortablement dans l'isolement, ce qui peut être possible, si nous constatons que nous sommes souvent seuls, loin des frères, loin de notre ministre, que nous ne passons pas assez de temps avec eux, ou que nous ne choisissons pas de passer assez de temps avec eux parce que nous pouvons nous contacter très facilement de nos jours, et nous devrions le faire. C'est la leçon importante à tirer de cette histoire. Le chapitre 18 et le premier verset des Proverbes expliquent le danger de l'isolement. La version King James dit, « Par désir, l'homme, après s'être séparé, cherche et se mêle de tout avec sagesse. » Ce n'est pas très clair. La nouvelle version de la King James est bien meilleure. Permettez-moi de lire ce que dit la nouvelle King James. L'homme qui s'isole recherche ses propres désirs et s'oppose à toute sagesse. Lorsque nous nous isolons, et que nous choisissons de le faire, nous nous retrouvons inévitablement avec nos propres imaginations, nos propres désirs et nos propres pensées. Et les petites doctrines, ce verset l'explique parfaitement, les petites doctrines peuvent surgir, peuvent être créées. Un homme qui s'isole recherche son propre désir. C'est dangereux. C'est un environnement dans lequel nous ne voulons pas nous placer si nous n'y sommes pas obligés. C'est pourquoi je dis qu'il est bon de contacter les frères. Nous vivons au XXIe siècle. Profitons du fait que nous avons un centre d'équipe. Nous avons beaucoup d'opportunités différentes sur les médias sociaux et pour nous contacter les uns les autres. Nous pouvons obtenir les numéros de téléphone des uns et des autres. Nous pouvons utiliser FaceTime, Skype, Team. Nous pouvons faire toutes sortes de choses pour nous assurer que nous nous engageons avec les frères. En effet, lorsque nous nous engageons avec les frères, plus nous le faisons, moins nous avons l'occasion de tomber dans nos propres mauvaises idées. Plus nous sommes renforcés par les bonnes idées, les choses que le Spokesman Club encourage. Si vous n'avez jamais fait partie du Spokesman Club et que vous êtes un homme, sachez que nous vivons au 21e siècle. Vous pouvez faire partie du Spokesman Club. Peu importe où vous êtes. Il y a un club pour vous, car tout se fait par voie numérique de nos jours. Il existe des moyens d'entrer en contact avec des frères pour s'assurer que nous ne restons pas isolés et que nous ne tombons pas dangereusement dans des doctrines de prédilection. Voici le deuxième point, la deuxième partie de l'environnement. Nous en avons parlé un peu plus tôt. L'orgueil. Si nous sommes très fiers de nous-mêmes ou si nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes ou de nos opinions, c'est une chose très dangereuse lorsqu'il s'agit de tomber dans l'hérésie. Il peut être très facile pour nous de voir nos idées comme quelque chose de plus que ce qu'elles sont réellement. Le véritable danger de l'hérésie est que nous regardons un ou deux versets et que nous disons « Oh, c'est tout. J'ai une toute nouvelle idée. » Mais nous ne tenons pas compte des nombreux passages de la Bible qui réfutent probablement cette idée. En particulier dans le domaine de la prophétie, c'est très facile. C'est pourquoi M. Pack, ce qu'il doit traverser est si difficile parce que même en tant qu'apôtre de Dieu, assembler un tiers de la Bible de manière à en faire un puzzle dont nous savons qu'il y aura des pièces manquantes à la fin, parce que nous voyons toujours à travers un verre sombre. Il est donc extrêmement difficile d'assembler un puzzle incomplet au départ. Et personne d'autre que l'apôtre de Dieu ne devrait s'y atteler. C'est là que si nous avons des idées qui diffèrent de celles des prophètes en particulier, il est si facile de dire, « Eh bien, regardez ce verset. Il dit telle chose et telle autre qui est différente de ce que l'Église. » Prenez-vous en compte les 500 autres versets qui contredisent cela, parce que c'est là que cela devient très dangereux. La prophétie en particulier. Si vous commencez à vous plonger dans les détails de la prophétie d'une manière différente ou en essayant de trouver un nouvel angle sur quelque chose, ne le faites pas. Ne faites pas cela. Ce n'est pas bon. Cela peut conduire à des choses très dangereuses parce que la prophétie est très, très, très difficile. Ce n'est pas facile. Et elle est censée être un défi. Elle est destinée à cacher aux masses la vérité sur ce que Dieu va faire, afin qu'elle soit prise au piège. Mais si nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, passons au deuxième chapitre de Timothée, si nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, il peut être très facile de se permettre de penser que notre nouvelle idée a une grande signification et un grand but. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 1. Voici les choses qui se produisent dans la prophétie, bien sûr, mais qui s'appliquent aujourd'hui. Bien entendu, ces choses peuvent également s'appliquer aujourd'hui. Sachez aussi que, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, cupides, fanfarons, orgueilleux, s'aimant eux-mêmes, blasphémateurs, désobéissant à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, briseurs de trêve, faux accusateurs, incontinents, féroces, méprisant les gens de bien, traîtres, capricieux, hautains, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant une apparence de piété, mais en reniant la puissance. Ces gens qui sont orgueilleux et qui ont une haute opinion d'eux-mêmes, une haute opinion, comme il est dit au verset 4. Ont une apparence de piété. Ils ont l'air d'être pieux, mais ils sont tout à fait perfides. Mais ils nient la vérité. Ils nient Dieu et la puissance de son gouvernement. Paul dit à Timothée de s'éloigner de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens qui ont l'air pieux. Les gens ne vont pas inventer de fausses doctrines en se faisant passer pour des athées. Ils vont inventer de fausses doctrines et donner l'impression d'être pieux. Ils auront l'air d'être quelque chose alors qu'ils ne le sont pas. Dieu dit de s'en détourner. Détournez-vous de cet orgueil. C'est pourquoi Dieu dit, je hais ces choses. Les six choses que je hais, sept choses sont une abomination. Il déteste l'orgueil. Il déteste que les gens aient une trop haute opinion d'eux-mêmes. Parce qu'il sait où cela mène. Il sait que cela conduit à de fausses idées qui tendent à éloigner les gens de la vérité. Voici maintenant le troisième élément de l'environnement qui peut engendrer ces doctrines, ces moustiques, ces horribles moustiques. Le manque de connaissances. Proverbe 19. Proverbe 19, nous lirons juste un verset, le premier. Excusez-moi, le verset 2. Si nous manquons de connaissances, si nous sommes simplement par ignorance parce que nous ne connaissons pas les doctrines de la Bible, il est tellement plus facile de tomber dans les fausses doctrines. Il est plus facile d'être persuadé par de fausses doctrines. Si nous n'avons pas nous-mêmes un fondement incroyablement solide, si nous ne connaissons pas nous-mêmes les doctrines de la Bible, une grande défense contre les fausses doctrines est l'étude de la parole. Étudiez la parole de Dieu. Ne laissez pas une parcelle de la vérité dans votre esprit être remplie de fausses doctrines. Remplissez votre esprit de la vérité afin d'être équipé pour lutter contre les fausses doctrines lorsqu'elles se présentent. Mais si nous sommes dans l'ignorance des fausses doctrines, il est facile pour nous de dire, « Oh, eh bien, c'est une pensée vacante dans mon esprit, je vais laisser cette fausse doctrine entrer tout de suite. » Ce n'est pas grave. Et en toute bonne conscience, vous le laisserez là parce que vous ne connaissiez pas la vérité. Voici ce qu'il en est. Proverbe, chapitre 19 et verset 2. Aussi, verset 1, mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que celui qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Et si l'âme est sans connaissance, elle n'est pas bonne. Et celui qui se hâte avec ses pieds commet un péché. Il n'est pas bon d'être sans connaissance. Ce n'est pas une bonne situation. Nous devons connaître les doctrines de Dieu. Nous devons connaître les vérités de la parole de Dieu. Maintenant que nous avons fait le tour de ces terrains propices à l'éclosion des doctrines des animaux de compagnie, que pouvons-nous faire pour les éradiquer ? Que pouvons-nous faire pour nous assurer que l'environnement que nous avons dans notre esprit ne favorise pas la reproduction de ces moustiques? Que pouvons-nous faire? Il s'agit des trois choses contraires aux trois problèmes que nous venons de voir. Le premier problème que nous venons de voir est l'isolement. Que faire pour ne plus être isolé? C'est très simple. Parlez aux frères. Parlez les uns aux autres. Parlez à votre ministre. Ecclésiaste, chapitre 4. Nous devrions être quelques pages plus loin. Ecclésiaste 4 et verset 9. Parlez aux frères. L'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, dit ceci. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur travail. Car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Frères et sœurs, si nous nous engageons avec les autres frères, même si nous nous sentons parfois isolés, si nous nous engageons avec les frères et que nous nous apercevons que nous glissons peut-être dans une sorte de pensée erronée, les autres frères peuvent attirer notre attention et nous dire, « Eh, vous savez quoi ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Ce dans quoi vous vous engagez n'est pas conforme à la vérité. Et voici pourquoi. Parce que si vous étudiez pour montrer que vous vous approuvez vous-même et que vous connaissez les doctrines de Dieu, alors vous pouvez les aider à se tenir à l'écart des fausses doctrines. Vous pouvez leur prouver le contraire. Mais l'isolement peut être facilement supprimé lorsque nous nous engageons avec les frères. Deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Mais malheur à celui qui est seul quand il tombe, car il n'a pas d'autre personne pour l'aider à se relever. Verset 10. Malheur à nous. Nous n'avons pas d'excuses pour être isolés dans ces dernières ères, heureusement. Nous n'avons aucune excuse pour être isolés dans l'Église de Dieu parce que nous sommes tous une grande famille. Et où que vous alliez, où que vous voyiez des frères ou que vous les rencontriez, c'est comme si vous les connaissiez depuis toujours. Peu importe d'où ils viennent. Deux valent mieux qu'un. C'est le premier point. La première façon de briser le cycle de l'isolement est de s'engager avec d'autres personnes, de s'engager avec les frères, de fraterniser avec eux, de profiter de ce temps. Le deuxième point est le contraire de l'orgueil. Le contraire de l'estime de soi et de ses propres opinions, c'est d'abaisser son opinion sur soi-même et de rester enseignable. Plus nous sommes enseignables, si nous sommes enseignables, frères, et que notre ministre nous signale ou que l'un des frères nous signale que nous nous égarons dans une mauvaise idée, tant que nous sommes enseignables, il nous sera facile de dire « Oh, vous avez raison. Je ne veux pas du tout m'engager là-dedans. Je veux rester à l'écart de cela parce que cela pourrait me nuire éternellement. Et cela pourrait aussi nuire aux autres éternellement si je continue à suivre cette voie. » Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point. Il suffit d'être disposé à apprendre pour se faire dire, ce n'est pas vraiment une bonne idée d'emprunter ce sentier. Ce n'est pas une bonne idée. C'est une mauvaise façon de penser. Et voici les versets qui expliquent pourquoi. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12 et verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas se faire une idée trop haute de lui-même. Nous ne devons pas nous faire une idée trop haute de nous-mêmes, mais penser sobrement, selon que Dieu a donné à chacun la mesure de sa foi. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous sommes plusieurs et formons un seul corps en Christ, et chacun de ses membres est membre d'un autre. Plus nous sommes orgueilleux, plus nous tombons facilement dans les fausses doctrines et nous nous détachons de ce corps. Nous voulons rester unis au corps du Christ. Nous voulons rester unis avec eux. Et le meilleur moyen d'y parvenir est d'adopter une attitude humble. Abaissez l'opinion que vous avez de vous-même. Abaissez l'opinion que vous avez de vos idées. Plus nous restons bas dans notre propre vision, plus nous diminuons nos chances de tomber dans l'hérésie et plus nous nous unifions avec ceux qui nous entourent. Et le dernier point est le suivant. Si le terrain propice à l'émergence de doctrines chéries est l'ignorance, quel est le contraire? Étudiez la parole de Dieu. Informez-vous. Souvenez-vous de la 2 Timothée, 2, 15. Étudiez pour vous faire approuver. C'est dans ce même contexte que nous lisons que Paul mettait en garde Hyménée et Philette. Hyménée et Philette sont tombés dans l'hérésie et ont renversé la foi d'autres membres de la congrégation. La réponse de Paul à cette situation est qu'il faut étudier pour se montrer digne. Le meilleur moyen de combattre les hérésies qui traversent l'Église est d'être bien informé. J'espère que si nous tombions tous par hasard sur ce qui est écrit sur la page d'accueil de l'un de ces sites Splinter, à savoir qu'ils incluent Jésus-Christ dans l'Évangile, aucun d'entre nous ne serait choqué et ne dirait « Eh bien, qu'y a-t-il de mal à cela ?» Il n'y a rien de mal à cela. Non, il y a beaucoup de mal à cela. C'est une hérésie. C'est faux. C'est une fausse doctrine. C'est un faux enseignement. Et nous l'expliquons dans notre documentation. Souvent, si nous revenons sur notre littérature, M. Pack a expliqué les choses de manière si détaillée, si claire et si détaillée dans notre littérature. Si nous revenons en arrière et étudions ces choses, nous serons choqués de voir à quel point il est facile de comprendre et de s'imprégner des vérités de la parole de Dieu. Si nous voulons repérer l'hérésie parmi d'autres frères ou en nous-mêmes, Nous devons connaître les vérités de la Bible et de la doctrine de l'Église. Jude 23 parle de tirer les gens du feu. Vous n'avez pas besoin d'aller là. Mais nous pouvons non seulement nous sauver nous-mêmes d'un incendie, mais nous pouvons aussi sauver d'autres personnes si nous repérons ces doctrines, ces fausses doctrines, chez les autres. Passez au 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3 et verset 15. Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre, avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous regardons souvent ce verset et disons, eh bien, lorsque vous rencontrez des gens dans le monde et qu'ils vous posent une question sur la vérité, soyez prêts à leur donner une réponse. C'est vrai. Nous voulons aussi être en mesure de leur donner une réponse. Mais que se passe-t-il si quelqu'un dans l'Église vous pose une question sur quelque chose d'un peu plus flou, d'un peu plus spécifique, et qu'il est dans l'Église et qu'il est peut-être en train de s'engager dans une hérésie? Ce verset s'applique également à eux. Souvent, nous ne pensons pas que ce verset s'applique aux frères, mais c'est pourtant le cas. Soyez prêts. Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque, y compris les frères, vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Connaissez les doctrines de la Bible et soyez prêts à répondre au cas où l'hérésie apparaîtrait dans votre vie. Malheureusement, certains frères écoutent les fausses pensées et ne font rien. C'est pourquoi, frères, si vous voyez ou entendez quelque chose, parlez-en à votre ministre. Si c'est votre ministre qui le fait, parlez-en au siège. Écrivez-nous. Nous ne voulons pas devenir une église où l'on écrit constamment au siège pour de petites choses insignifiantes, mais si vous voyez une hérésie, si vous voyez quelque chose qui est explicitement faux et contraire à la doctrine de l'Église, écrivez-nous. Parlez-en à votre ministre. Écrivez au siège s'il s'agit de votre ministre. Soyons les gardiens de nos frères et protégeons non seulement nous-mêmes, mais aussi les frères qui nous entourent. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Nous ne voulons pas être complices du crime, si vous voulez. Si nous voyons quelque chose et que nous ne disons rien, nous pouvons nous considérer comme complices du crime. Oh, il n'y a rien de mal à cela. Je vais juste laisser cette personne trancher la gorge ou enterrer ces autres personnes ici. Laissons-les les détruire spirituellement. Nous ne voulons pas être dans cette position. Nous ne voulons pas être dans cette position. Alors, mes frères, si nous voyons quelque chose, disons-le. En conclusion, nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir et l'attrait que peuvent avoir les petites doctrines. Elles ne ressemblent pas à des moustiques, mes frères. Elles ressembleront à un petit chiot lorsque vous les découvrirez pour la première fois. Elles peuvent sembler merveilleuses. Elles peuvent sembler douces. Pas de problème en apparence, mais à l'intérieur, ce petit animal que vous avez créé a la rage. Prenez à cœur les leçons que nous avons apprises et discutées aujourd'hui. Restez proche des frères. Ne restez pas isolés. Abaissez l'opinion que vous avez de vous-même et étudiez la parole de Dieu. Étudiez les vérités de la Bible. Ne vous laissez pas piéger par une hérésie apparemment inoffensive mais mortelle.